L'agglo, c'est nous, et à Beaulieu-Restinclière, l'arbre protecteur de la nature. L'association Restinclière-Beaulieu, pour le respect de l'environnement, l'arbre travaille à préserver le cadre naturel de ces villages. Le 22 novembre, ces passionnés partageront avec petits et grands curieux les plus belles histoires de la nature.
Notre travail, c'est l'éducation à l'environnement, explique Jean-Pierre Fels, président de l'Arbre. Depuis 2011, les bénévoles de cette association mettent du cœur à l'ouvrage. Respecter notre environnement devrait être une démarche naturelle, complète ce chercheur à la retraite. Pour que chacun ait cette conscience, nous nous appliquons à faire connaître le monde qui nous entoure. Respecter la nature devient alors une évidence au vu des relations qui existent entre les organismes vivants et les activités humaines telles que l'agriculture, la base de notre alimentation. Nettoyage de la nature, sorties découvertes autour des plantes et animaux de la garrigue, conférences, débats tenus par des passionnés aux professions et points de vue divergents, les multiples activités menées par l'arbre, nées du rapprochement de deux associations des villages voisins, participent activement à cette prise de conscience.
Si vous n'êtes pas encore convaincu ou si vous êtes tout simplement curieux de nature, rendez-vous samedi 22 novembre à Beaulieu et Restinclière pour vous faire conter les plus belles histoires de la nature. De 14h30 à 17h, les écologistes de Lozière proposent une découverte des éléments marquants de la nature locale, faune, flore, paysage, ripisylve et géologie au départ de la Maison pour tous de Restinclière. La soirée se poursuivra à 19h30 à Beaulieu, salle de la cave coopérative où échangeront le grand écrivain et poète Jean Joubert, le chercheur passionné d'ornithologie et de botanique Yves Caraglio, membre d'Arbre, et les écologistes de Lozière, pédagogues de terrain. Au programme, nature et éducation à l'environnement autour notamment de poèmes et de la faune ornithologique locale pour comprendre l'importance des sciences et de l'émotion dans les relations entre l'homme et la nature. L'entrée est libre. Plus d'infos sur arbre34160.org.
Jacou, le 7e art, s'invite à la passerelle. Le cinéma fait son entrée dans la programmation de la salle de spectacle en photo avec cet article. Chaque premier vendredi du mois, au tarif unique de 4€ par séance et par personne. Notre priorité est de proposer un véritable cinéma de proximité au Jacoumard, bon marché et avec des films récents, explique Renaud Calva, maire de Jacou. Prochain rendez-vous cinématographique le 7 novembre avec à l'affiche Le Garçon et le Monde, ce sera à 18h30 et Brève de comptoir à 21h. La passerelle, ce sont aussi des spectacles humoristiques, de la danse, des spectacles jeune public et de la musique. En novembre, la salle de spectacle accueille 3 concerts. D'abord le 14 novembre, Beata Drezigova, une chanteuse slovaque, puis le 22 novembre, une touche d'optimiste avant le concert de la Sainte-Cécile, prévu pour le 30 novembre. Pour le cinéma, la billetterie est ouverte sur place 20 minutes avant le début de la projection et dans la limite des places disponibles. Plus d'informations au 04 67 55 88 55 ou alors sur le site de la ville, ville-jacou.fr.
Frédéric Mistral a l'honneur à Saussan. Dans le cadre du centenaire de sa mort, le centre culturel de Saussan accueille du 14 au 21 novembre Mistral en Europe. Une exposition prêtée par le CIRDOC retraçant l'influence de cet écrivain de la Languedoc sur la littérature européenne du 19e siècle. Le 14 novembre, une rencontre avec le poète et écrivain Roland Pécou, fin connaisseur de la vie et de l'œuvre de Mistral, sera organisée par l'association Daïci Daïla. Vous pouvez vous renseigner par téléphone au 04 67 47 82 24.
Un parc 5 étoiles à Lattes. Les habitants de l'agglomération peuvent profiter du nouveau parc des 4 saisons à Lattes avec ses espaces verdoyants peuplés d'une trentaine d'essences végétales dédiées à chacune des saisons. Des jeux pour les enfants, un mazet provençal, un petit ruisseau, un mur d'eau et une cascade. Cet équipement propose des aménagements à la fois utiles et esthétiques. Un véritable poumon vert de 9000 m² en plein centre-ville, financé par la ville de Lattes et Montpellier Agglomération, à découvrir pour le sport ou la. Ce parc est ouvert l'hiver de 8h à 18h et l'été jusqu'à 20h.
À Pérol, des speed dating au service de l'emploi. Le premier job dating a lieu le mardi 18 novembre, un événement organisé avec Pôle emploi, ouvert seulement aux habitants de Pérol actuellement à la recherche d'un emploi pendant lequel ils rencontreront des entreprises de la commune ayant des postes à pourvoir. Ce premier tête-à-tête doit créer une synergie afin d'aider ces personnes à retrouver une activité. À Pérols, nous comptons près de 750 demandeurs d'emploi, dont 168 recherchent un poste depuis plus de 24 mois. Jean-Pierre Rico, le maire de Pérols, le conseiller d'agglomération, qui poursuit en disant que ce chiffre, nous souhaitons le voir baisser grâce à ce nouveau dispositif qui sera répété plusieurs fois par an. Nous allons également mettre en place en 2015 un forum pour l'emploi en partenariat avec Montpellier Agglomération et créer ainsi un espace emploi. Il s'agira d'un guichet d'information pour mieux aiguiller les Péroliens à la recherche d'une activité.
Bouillon de culture à Castelnau-le-Lez. Connais ton monde et partage-le, c'est le slogan de Connaissance et Partage avec ses 250 adhérents de soutien et surtout une équipe efficace composée d'une vingtaine de membres. Cette association organise tout au long de l'année de multiples sorties et conférences au débat très ouvert. Elle affiche cette saison pas moins de 64 rendez-vous autour des sciences, de l'art, de l'histoire ou encore de l'astronomie, un de ses domaines de prédilection. Les prochaines conférences, toutes gratuites, traiteront de l'Europe à la veille de la Grande Guerre par Jean Barrault, ce sera le 17 novembre à 20h, des promesses de la mission spatiale européenne Gaïa avec l'astronome Gérard Jasniewicz, et puis de la lumière par Pierre Ricard, ce sera le 10 et le 18 décembre à 20h. La sortie de novembre aura pour destination les Matelles, une promenade didactique avec Christian Carbas, et ce sera le 28 novembre. Toutes ces conférences se dérouleront au Palais des Sports de Castelnau-le-Lez. Plus d'informations sur le site connaissant partage-34.e-monsite.com.
Prades-de-Lez sur le devant de la scène. Il y en aura pour tous les goûts du jeudi 27 au dimanche 30 novembre à Prades-de-Lez en Seine. Un rendez-vous désormais traditionnel organisé par la municipalité en partenariat avec la compagnie Montpellier-Rennes des Quatre Coins qui met à l'honneur le théâtre. Du classique, du vaudeville, mais aussi de la comédie et des spectacles pour les plus jeunes. Les 7 représentations à l'affiche explorent les différents registres théâtraux. Les compagnies sélectionnées, pour la plupart originaires de l'agglomération et de la région, seront toutes mobilisées pour offrir de véritables moments de partage artistique au public. Un numéro de téléphone pour vous renseigner, le 04 99 62 25 97 et un site internet prades-le-les.fr.
Saint-Jean-de-Védas, LAT, un club qui monte en flèche. Après 30 ans d'existence, les archers de l'arc LAT-Védas n'ont rien perdu de leur adresse. Au contraire, le club recèle de talents et forme les futures générations. Le club de tir à l'arc, qui collectionne les titres de champion de France de tir fédéral depuis les années 90, poursuit sur sa lancée. La saison dernière, Thomas Divol, l'un de ses 103 licenciés, s'est hissé à la 3e place du championnat de France de tir olympique. À l'aube de cette nouvelle saison, le club nourrit de grandes ambitions. Nous pouvons nous appuyer sur notre jeune garde qui possède un très gros potentiel avec en perspective le prochain championnat de France de tir olympique. C'est ce que précise Jean-Luc Lévy, président de l'Arc LAT-Védas. Le tir à l'arc est un sport ouvert à tous qui se pratique à partir de 10 ans en loisir ou en compétition. Il faut en moyenne 3 à 4 ans d'apprentissage pour obtenir un archer compétitif. Mais après 3 mois d'initiation seulement, les débutants peuvent déjà se débrouiller, explique Jean-Luc Lévy. Et surtout, il n'y a aucune limite d'âge pour pratiquer le tir à l'arc. Rendez-vous au gymnase Georges Brassens à LAT ou sur le terrain Étienne Vidal à Saint-Jean-de-Védas pour vous essayer à ce sport. Plus d'informations sur le site arclatvedas.free.fr.
À Montferrier-sur-Lez, du logement social dans l'ancienne distillerie. Située en bordure de la route de Montpellier et en direction de Prades-le-Lez, la distillerie intercommunale du Pont du Lait à Montferrier est restée en activité des années 30 jusqu'en 1992. C'était même l'une des plus importante de l'Hérault. À l'initiative d'ISF Habitat Sud-Est Méditerranée et de l'architecte Antoine Garcia Diaz, elle vient de faire l'objet d'une réhabilitation soignée et réussie. La résidence, le pont des Arômes, évoque évidemment ceux du marc de la distillerie. Sur l'aile gauche de cette imposante bâtisse, 42 logements sociaux, il y a 9 T2, 24 T3 et 9 T4 ont été agencés avec notamment une réhabilitation des deux bâtiments en pierre de l'ancienne bâtisse. La partie droite, elle, sera traitée ultérieurement. Montpellier Agglomération a participé financièrement à ce projet à hauteur de 118 000 euros et a garanti les emprunts pour un montant de 2,6 millions d'euros. Le Pont des Arômes s'intègre lui-même dans un programme résidentiel de 167 logements, celui du domaine de Caudalie. Lors de l'inauguration à la mi-octobre, les élus ont indiqué que le Pont des Arômes a relevé un triple défi pourtant pas évident au départ, la reconversion d'un site industriel, la mixité de l'habitat à environnement égal et le maintien sur le site site de la mémoire du lieu. On aperçoit d'ailleurs cette nouvelle construction en photo sur cette page.
Centenaire 14-18, raconter et transmettre. La guerre 14-18 a fait 14 000 victimes dans l'Hérault. Pour les cérémonies du centenaire, les communes de l'agglo ont imaginé théâtre, conférences, lectures, expositions, défilés, poses de plaques, sculptures. À Pérol, Christophe Malavoie joue « Qui se souviendra ? » le 11 novembre. À Montpellier, la faculté de médecine présente 14-18, médecine au champ d'honneur, des hommes et des avancées médicales à Montpellier. Un livre évoque les héroletés dans la guerre de 14-18, des commémorations qui nous rappellent le sacrifice de nos aînés.
Et les secondi père et fils racontent la guerre à six mains. Professeur agrégé d'histoire en retraite, Louis Secondi s'est entouré de ses deux garçons, Jean-Luc et Guilhem, 50 et 35 ans, qui enseignent la même spécialité que leur père à l'université dans le secondaire, pour donner naissance donc à les héroletés dans la guerre de 14-18. J'avais la volonté de travailler avec mes fils car nous représentons trois générations et trois manières d'envisager l'histoire selon les périodes, les courants historiques ou nos formations respectives, précise d'emblée Louis Secondi. Lors de la Première Guerre mondiale, un seul département, les Ardennes, a été occupé durant la totalité du conflit et 10 autres ont été des lieux de front. Aussi, les trois Secondi évoquent la vie quotidienne à l'opposé du front. Armement, textile, vin, toute l'économie était orientée vers la guerre et l'arrière travaillait pour le front. Dans les familles, on s'organisait pour gérer l'absence et faire face à la cherté et à la dureté de la vie, toute la génération des enfants vieillards était mise à contribution. C'est ce que nous avons mis en exergue, l'énorme élan de solidarité. À travers des situations concrètes, ce livre retrace l'humanité de la guerre, poursuit Louis Secondi. À cette époque, le facteur était un personnage clé. Il passait trois fois par jour en ville, deux dans les villages. C'était le pain de l'espoir au quotidien.
Dans le livre des Secondi, père et fils, on trouve aussi des trajectoires individuelles inédites. Celle d'Émile Errant de la Boissière. Prisonnier dans une ferme en Allemagne, il correspondait avec le fils de la famille qui était à Lille, avec des « mon cher Émile, mon cher Karl » assez étonnants. Jean Berger de Saint-Dreséry passa plusieurs mois inaperçu en se glissant dans une unité où l'on soignait les dents, ce qui ne l'empêcha pas ensuite d'être retenu prisonnier pendant quelques temps. Originaire du quartier Boutonnet, à Montpellier, Louis Bonfils était un fait libre, c'est-à-dire un poète de Languedoc, patriote. C'était en quelque sorte le défenseur des militaires du Midi. Sa correspondance en Occitan lors de ses années de guerre a été mise en lumière par Guy Barral sur le blog Le Bibliophile Languedocien. Pour l'heure, avec leur dernier livre, les Secondi sont très demandés pour des conférences dans les communes, centenaire oblige.
À Castelnau-le-Lez, Jules Matra à la MJC. Le label Centenaire 14-18 a été attribué à la MJC pour son projet innovant développé à partir d'une création théâtrale de la troupe du Triangle sur le sujet du traumatisme lié au retour de guerre. Le projet est une adaptation de Jules Matra, l'œuvre de Charles Exbraya. Jules Matra, c'est un paysan de la Loire, âgé de 30 ans, qui, de retour chez lui après la guerre, tente d'exorciser ses démons. La rencontre artistique entre amateurs et professionnels, l'interprétation par les comédiens amateurs avec une distribution intergénérationnelle sont les singularités de cette création. Elle apportera au public un intérêt et une dimension exceptionnelle pour développer une plus grande conscience auprès de la population des ravages psychologiques et physiques des retours de guerre. La pièce de théâtre est amenée à être produite auprès des publics jeunes des établissements scolaires de la région. Représentation donc à la MJC samedi 22 novembre à 20h30 et dimanche 23 novembre à 18h, MJC de Castelnau-le-Lez. Le tarif est de 6€ pour les adhérents. Il est à 5 euros.
Pérol, l'hommage de Christophe Malavoie aux poilus. Les commémorations du 11 novembre à Pérol seront l'occasion d'un double événement. Toute la journée, sur la place de la mairie, un avion d'époque, le Blériot 11, sera exposé. C'est ce modèle qui a effectué la première traversée aérienne de la Manche et dont l'armée française s'est servie durant le premier conflit mondial. Mais c'est en soirée qu'est prévu le temps fort de cette journée mémorielle avec la présence de Christophe Malavoie pour un moment rare de théâtre dans Qui se souviendra. Au départ de ce projet, il y a, parmi tant d'autres, le roman publié par Christophe Malavoie en 1996. À la mort de son père, l'acteur avait ressenti le besoin de plonger dans ses racines jusque dans la gangue des tranchées et de remonter à ce grand-père qu'il n'a pas connu. Pas plus que son père ne l'a vraiment connu. Car cet André M. a été mortellement blessé lors d'un assaut en Champagne en mars 1915. Héros anonyme, comme tant d'autres. Dans Qui se souviendra, Christophe Malavoie est habité de souvenirs familiaux, de douleurs et de dialogues dialogues intimes avec la mort, en se mettant dans la peau du soldat et en échangeant avec sa femme qu'il ne reverra pas et qui pourtant porte un enfant de lui. Une histoire d'amour déchirante et accompagnée en musique par le quatuor Psophos qui joue des œuvres de contemporains de la Grande Guerre comme Ravel, Debussy, du Rosoir, Capelet ou Magnard. Avec le portrait de ses grands-parents pour fond de scène, Christophe Malavoy explore les répercussions de cette mort dans la mémoire familiale et livre à travers une écriture ciselée un récit poignant sur les blessures profondes et ineffaçables de la Der des Der. Qui se souviendra ? Un spectacle écrit et mis en scène par Christophe Malavoy. Ce sera à 20h30 à la salle Yves Abric. Le tarif est de 20 euros.
Et sur cette page également, une photo de l'exposition 14-18, médecine au champ d'honneur, présentée par la faculté de médecine de l'université de Montpellier 1 en partenariat avec Montpellier Agglomération. Elle éclaire d'une manière inédite le contexte médical montpelliérain de cette période. Cette exposition, qui a obtenu le label centenaire, est à voir jusqu'au 12 novembre.